Victor Cherbuliez, Les inconséquences de M. Drommel. M. Hannes Drommel arriva à Barbizon le mardi 30 septembre selon les uns, le mercredi 1er octobre selon les autres. Ces derniers se trompent. Ce qui en fait foi, c'est le double témoignage très authentique de M. Taconnet, ex-commissaire de police, et de Mme Denis, marchande de marée, qui tous deux partirent de Melun dans le même omnibus que M. Drommel et firent route avec lui. Quoique M. Taconnet ait la figure un peu rude, d'épais sourcils, la parole brève, tranchante, le regard perçant et inquisitif, c'est le plus honnête et le meilleur des hommes, et tous ceux qui le connaissent savent qu'il n'a jamais menti de sa vie, hors les nécessités de sa profession. Quant à Mme Denis, cette digne personne est incapable d'altérer sciemment la vérité quand il n'y va pas de sa tête ou de la défaite de son poisson. D'ailleurs, il est de notoriété publique qu'elle ne porte sa marée à Barbizon que deux fois la semaine et jamais le mercredi. Il s'ensuit que ce fut bien le mardi 30 septembre qu'il eut l'honneur de faire route avec M. Johannes Drommel. « À quoi sert-il, demandera-t-on peut-être, de déterminer minutieusement cette date ? La main sur la conscience, cela ne sert à rien. Mais on ne saurait être trop précis dans ces informations lorsqu'il s'agit d'un sociologue allemand qui se pique lui-même de la plus scrupuleuse exactitude en toute matière et qui reproche aux Français de n'avoir jamais su ni la géographie ni l'histoire. Se donne-t-il le plaisir de relever quelques bévues commises par un Welsche ? Son œil gris pétille de malice, sa tête a l'air de danser sur ses robustes épaules, et il laisse échapper un de ces gros rires qui font aboyer les chiens. M. Drommel arriva à Barbizon dans la matinée à 10 heures ou 10 heures et demie. Nous ne pouvons rien affirmer de plus précis à ce sujet, et pour cause. Tout l'univers sait que l'entreprise Le Jaune fait le service des voyageurs et de la poste entre Barbizon, Chailly et Melun. L'univers n'ignore pas non plus que cette recommandable entreprise s'acquit de son office à la satisfaction générale, qu'elle s'applique à concilier l'utile et l'agréable. Quand vous allez à Melun, c'est pour y prendre le train, et le train n'attend pas. Fiez-vous à l'entreprise Le Jaune, vous ne le manquerez jamais point. Ces chevaux n'ont pas besoin de sentir le fouet pour courir comme le vent. Ah, au retour, c'est une autre affaire. Il n'y a plus rien qui presse et les choses se passent comme en famille. Qu'importe d'être à Chailly ou à Barbizon une demi-heure plus tôt ou plus tard. Une allure modérée permet aux voyageurs de contempler le paysage, d'étudier la route, qui est charmante. Aussi ces mêmes chevaux, si affairés, qui tantôt dévoraient l'espace, se mettent à compter leurs pas. Ils lornent amoureusement toutes les maisons, comme s'ils grillaient d'envie d'y entrer, et s'arrêteraient volontiers pour lier conversation avec tous les passants. Le cocher, qui se conforme à leur humeur, multiplie les haltes. Il disparaît dans un bouchon, il se rafraîchit à loisir. Il a des paquets à déposer ou à prendre, des nouvelles à donner ou à demander, des accolades à distribuer ou à recevoir. Il a surtout une cousine à embrasser. Excusez-le, elle est jolie, et laissez-le faire. Il y a de cela bon avec l'entreprise, Le Jaune, qu'on finit toujours par arriver. C'est une grâce du ciel. Voilà bien la France, s'écria M. Drommel lorsqu'il entendit la voiture rouler sur le pavé de Barbizon. 2 heures pour faire 10 kilomètres. C'est ainsi qu'on perd les batailles. C'était une forte exagération. Quel que soit son goût pour l'exactitude, M. Drommel est un homme très passionné et la passion exagère toujours. M. Johannes Drommel jouit dans son pays d'une certaine réputation dont il est fier. Peu lui importe que son mérite et son caractère soient discutés pourvu qu'on s'occupe de lui. Il est content. Ce gros homme court n'a pas un visage ordinaire. M. Taconnet, qui était assis en face de lui dans l'omnibus, ne put s'empêcher d'admirer l'ampleur de sa tête, sa grande bouche tortueuse, la longueur démesurée de ses bras, son nez conquérant, solennel, héroïque, toujours prêt à partir en guerre, un nez fait pour affronter les grandes batailles de la vie. Tant que M. Drummle garda le silence, M. Taconnel admira. Mais à peine eut-il articulé deux mots, oh, adieu le prestige. M. Drummle a deux voix, l'une grave, un peu rauque, l'autre perçante, aiguë. Il passe brusquement de l'une à l'autre et ce contraste est plus plaisant qu'agréable. Il y a dans le monde de vieilles brouettes mal graissées qui ont aussi deux voix et la même façon de parler que M. Drummle quand on les pousse un peu vivement sur le gravier. J'en connais une intimement, mais comme elle est modeste, elle est à milieu de s'imaginer que je ne puis l'entendre sans penser à un grand homme. M. Drummle est né à Lusace, à Görlitz, et si vous consultez à son sujet les habitants de Görlitz, ils vous diront que, dans le fond, c'est un bon homme, qu'il n'a jamais fait de mal à personne, mais qu'il est difficile de trouver quelqu'un à qui il ait rendu service. Que voulez-vous, il n'a pas le temps. Il est convaincu que le monde a été mal fait, que M. Johannes Drummle est chargé de refaire, et c'est à cela qu'il emploie ses journées et ses veilles. On cite de lui un mot mémorable qui prouve que cette préoccupation lui vint de sa plus tendre jeunesse. Il n'avait pas 18 ans quand 3 ou 4 de ses camarades, qui sortaient d'une brasserie, le rencontrèrent par une froide nuit d'hiver, arpentant tout seul les rues de Görlitz, les mains dans ses poches, les cheveux au vent. Ils lui demandèrent à qui il en avait. Il les contempla d'un air compatissant, puis il leur répondit « Je cherche la synthèse. » Et il passa son chemin. Et depuis lors, il a toujours cherché la synthèse, et la satisfaction superbe qui se peint dans son regard témoigne qu'il a fini par la trouver. C'est un grand avantage qu'il a sur nous tous, car enfin, qui de nous l'a trouvé ? Bon, assurément, ce n'est pas moi. Qu'on n'aille pas s'imaginer là-dessus que M. Drummle est un métaphysicien, un idéaliste. Il méprise profondément l'idéalisme. La métaphysique et les songes creux. Il appartient à cette nouvelle génération d'Allemands qui explique tout par les cellules et qui n'a pour Goethe et Hegel qu'une médiocre considération. M. Drummle se pique d'être réaliste jusque dans la moelle des os. Il estime que la société repose sur des opinions erronées et sur de sots préjugés. Son grand principe est que la nature a, comme M. Drummle, le génie de la synthèse et que toutes les maladies sociales proviennent de l'abus de l'analyse. Par une série de raisonnements fort bien déduits, il conclut de là que la propriété et le mariage sont de tous les préjugés les plus ridicules, les plus funestes, et que le point dont il s'agit est de remettre en circulation la terre et la femme. Il en a découvert la méthode, et il se fait fort de démontrer qu'il suffirait de 2 ou 3 décrets rendus par un gouvernement intelligent pour que tout marchât à merveille. M. Drummle ne demande à être gouvernement que pendant 48 heures pour réformer à jamais l'humanité. Par malheur, jusqu'à ce jour, il ne s'est pas trouvé dans toute l'Allemagne un seul principicule qui consentit à lui prêter sa couronne d'un lever à un coucher de soleil. Il s'en plaint car il croit fermement à sa méthode. Cet homme a du caractère, une forte volonté. Son père, qui ne croyait pas à son génie et qui le destinait au commerce, l'envoya faire ses études dans une Realschule, où il apprit que quelques mots de latin. Il en appela et le décret fut rapporté. Il répara le temps perdu, suppléa par ses efforts aux lacunes de sa première éducation. Quelques années plus tard, il était docteur et à peine fut-il docteur, il enseigna la sociologie à l'université de Königsberg en qualité de Privatdozent. Ses doctrines furent jugées dangereuses, sans compter qu'il avait la déplorable habitude de levroder, de vilipender, de déchirer à belles dents tous ses collègues. Du haut de sa chaire, il traita l'un d'eux d'Asinus ridiculissimus, ce qui fut pris en mauvaise part. On lui donna des avertissements, des dégoûts. Il reconnut qu'il ne deviendrait jamais professeur ordinaire, ni même extraordinaire. Alors il abandonna la partie. Il avait hérité de son père, qui s'était enrichi dans le commerce du bétail, une fortune assez rondelette. Il se retira fièrement sous sa tente, c'est-à-dire à Görlitz, où il fonda une feuille hebdomadaire intitulée « Das Licht » ou « La lumière ». Celui de ses ex-collègues qu'il avait traité d'Asinus ridiculissimus écrivit contre lui un sanglant article dans le Grenzboten. Il y décriait sans merci son journal et accusait le directeur d'être une lanterne fumeuse qui se prenait pour le soleil. M. Drommel méprisa ses injures et ne se laissa point d'éclairer l'univers. Ses abonnés assurent qu'il les étonne plus qu'il ne les convainc. Mais cela suffit à son bonheur. M. Drommel n'est pas seulement un penseur et un polémiste. Dans l'occasion, il sait se remuer, tracasser, s'intriguer. Après une tentative infructueuse, il réussit à se faire élire au Parlement impérial, où il siégea dans le voisinage des socialistes, mais sans frayer avec eux. Il est considéré comme de pauvres hères, car il n'est pas socialiste, il est sociologue. Et vous en sentez la différence. Si le prince de Bismarck avait daigné prendre quelquefois ses avis et se gouverner par ses conseils, il serait peut-être devenu bismarckien. Mais le prince de Bismarck ne lui ayant point fait d'avance, et s'étant permis de quitter un jour la salle des séances au moment où M. Drommel était à la tribune, M. Drommel se mit à bouder le gouvernement, se détermina à constituer un parti à lui tout seul. Il représentait dans le Reichstag les Drommeliens. Il n'y en avait qu'un, animal unique en son espèce. Sa solitude ne l'inquiétait pas. La synthèse est toujours solitaire. Il jouit de son bonheur pendant 3 ans, mais il ne fut pas réélu. Cette mortification lui fut sensible. Il s'en consola en pensant que les temps n'étaient pas mûrs et que son jour viendrait. On n'est jamais tout à fait conséquent. Quoique M. Drommel aspire à mettre la propriété en circulation, il ne laisse pas de posséder une maison fort cossue qui ne songe point à faire circuler, et un assez grand nombre de titres de rente dont il ne fait part à personne. On prétend qu'il est dur à la détente, qu'il ne laisse jamais voir, sans de bons motifs, la couleur de son argent. D'autre part, quoique le mariage soit à ses yeux une piètre institution destinée à disparaître dans un prochain avenir, il eut à 54 ans la faiblesse de se marier. Dans le temps qu'il était député, il avait conçu de tendres sentiments pour une danseuse de l'Opéra de Berlin. Cette charmante francfortoise, qui passait pour être aussi sage que jolie, le renvoya bien loin. Il est persévérant, alors il n'eut garde de se rebuter, et le destin lui vint en aide. Il arriva que la jolie et sage Ada se laissa un soir tomber dans une trappe où elle se cassa la jambe. On la raccommoda, mais il lui resta de cette mésaventure un léger clochement du pied droit, qui, au dire de ses admirateurs, ajoutait à ses grâces, et qui toutefois la gelait beaucoup dans ses entrechats. Elle se ravisa subitement, prêta l'oreille aux propositions de M. Drommel, mais elle entendait être épousée dans toutes les règles, civilement et à l'église. Il en passa par tout ce qu'elle voulut, tout en lui représentant qu'il est dur à un philosophe de faire le sacrifice de ses principes et de se conformer aux préjugés. Il le lui déclara fort nettement, et peut-être eut-il le tort de lui déclarer trop souvent. Les gens convaincus aiment à se répéter. Il n'eut pas d'ailleurs à se repentir de son pénible sacrifice. Il trouva dans Madame Ada de Rommel non seulement une ménagère accomplie, mais une femme exemplaire, qui témoignait d'une soumission touchante à ses volontés, un acquiescement absolu à ses idées, une parfaite déférence à ses conseils et une confiance entière en son génie. Lui-même s'applaudissait d'être l'unique et légitime possesseur d'une beauté que les connaisseurs lui enviaient et qui, tout en clochant un peu, faisait sensation partout où elle se montrait. Il éprouvait aussi quelque satisfaction à l'idée qu'il s'était fait aimer et adorer, lui, Prussien, d'une femme née en pays rhénan, sur terre conquise. Il avait fait à sa façon acte de conquérant. Il n'avait pas épousé sa femme, il se l'était annexé, sans compter qu'il était beau de voir une danseuse devenir la femme d'un sociologue. Il y avait un peu de synthèse dans cette union. Et M. de Rommel estimait que si le mariage doit être condamné comme un préjugé ridicule, les mariages synthétiques méritent peut-être qu'on fasse une exception en leur faveur. Il se flattait d'avoir donné au monde un grand exemple et, par voie d'insinuation, il en toucha quelques mots discrets dans un article de La Lumière. Ce qui fournit à Lasinus Rigiulissimus l'occasion désirée de lui dire une fois de plus son fait. M. de Rommel, comme on peut le croire, le remoucha d'importance en prenant tout l'Empire germanique pour juge du camp. Ce fut vraiment une belle polémique. Il avait mis dans son bonnet de tenter de nouveau les chances du scrutin dans les élections au Parlement prussien qui ont eu lieu tout récemment. Il sonda le terrain, acquit la triste conviction qu'il courait au-devant d'un échec assuré. Et pour se dérober à sa défaite et pour évaporer son dépit, il résolut d'aller faire un long voyage en France et en Italie. Ce fut de sa part une détermination salutaire. Tant qu'il était dans son pays, il était mécontent de tout, critiquait amèrement les institutions et les hommes, se plaignait que les affaires allaient de mal en pis. Mais à peine avait-il passé la frontière, les comparaisons qu'il faisait le réconciliaient avec sa maudite et chère Allemagne. S'il avait beaucoup de griefs contre ses compatriotes, il contemplait les Welches du haut d'un mépris, juché sur 50 canons Krupp. Il enferma dans une sacoche de voyage qui suspendit à son cou 5 ou 6 000 marques en billets et en rouleaux d'or qu'il économisait depuis longtemps à cet effet, et accompagné de sa charmante femme, il se mit en chemin pour Paris, où il passa 15 jours, après quoi il continua son voyage en allant visiter la forêt de Fontainebleau. Voilà comment il se fit que le 30 septembre 1879, l'entreprise Le Jaune eut le privilège de voir monter M. de Rommel dans un de ses omnibus et de le transporter, moyennant la somme d'1 franc, de Melun à Damary, de Damary à Chailly et de Chailly à Barbizon. M. de Rommel était curieux de tout. Durant le trajet, il fit subir un interrogatoire en règle à ses compagnons de route. Il avait l'air d'un corneille, d'une corneille qui abat des noix, et au demeurant, il ne doutait pas que les Français ne fussent très sensibles à l'honneur que leur fait un penseur d'outre-Rhin en les questionnant. La marchande de marée, qui aimait à jaser, lui répondit de point en point. Il voulut savoir quelles espèces de poissons elle portait dans sa corbeille, et il sourit majestueusement quand elle lui vanta ses anguilles. Il lui fit la grâce de lui déclarer qu'il n'y a de vraies anguilles que celles qui barbotent dans la Neisse. M. Taconnet fut moins complaisant, se renferma dans un morne silence, et ne daigna pas apprendre à l'interrogeant sociologue Que étant né à Metz, il avait peu de goût pour les Allemands. Il n'eut garde non plus de lui dire qu'il avait été commissaire de police à Melun et que, ayant fait depuis peu un héritage, il avait pris sa retraite et qu'il se rendait à Barbizon pour y donner des ordres touchant une maisonnette qu'il y faisait bâtir et dans laquelle il se promettait de passer ses vieux jours. Il se donna encore moins la peine de lui révéler qu'il n'avait lu dans toute sa vie qu'un seul livre écrit par François Rabelais, mais qu'il l'avait bien lu, qu'il le savait par cœur, et qu'à sa manière il avait trouvé la synthèse. À quoi bon le dire, M. Drummel n'en aurait rien cru. Choqué du silence obstiné de l'ex-commissaire de police, et trouvant de ce côté portes et fenêtres closes, M. Drummel se retourna vers Mme Denis. À peu de distance de Chailly, elle lui montra, sur le bord de la route, une sorte de tour crénelée coiffée d'une sorte de minaret, et lui raconta que cette tour était un tombeau qu'un particulier, assez original, s'est fait construire pour y être enterré avec ses chevaux et ses chiens. M. Drummel sourit de nouveau. Poussant le coude de Mme Drummel, il s'écria « Französische Heitelkeit ». M. Taconnet, qui savait un peu d'allemand, comprit que cela voulait dire « Voilà bien la vanité française ». Un peu plus loin, on rencontra une jolie vachère qui, armée d'une longue gaule, menait ses bestiaux au champ. Elle interpella de loin le cocher de l'omnibus et lui montrant toutes ses dents, elle lui cria « Redemandez mon ombrelle à Eugénie, j'en aurai besoin pour la fête de dimanche ». M. Drummel haussa les épaules, poussa encore le coude de sa femme et lui dit « Französische Frivolität ». Et quand M. Taconnet n'aimerait pas su l'allemand, il aurait deviné sans peine que cela signifiait « Voilà bien la frivolité française ». Cette seconde impertinence lui fut amère. Il eut peine à digérer cette pilule. Il fut bien tenté de saisir M. Drummel à bras le corps et de le jeter par la portière. Mais, quand on a été commissaire de police, on a appris à maîtriser son premier mouvement. Il se contenta de penser à Dindenot, le marchand boutonnier, à ses insolents propos. Et passant la main sur ses favoris, il grommela sourdement « Patience !» répondit Panurge. M. Taconnet et Panurge avaient raison. La patience est une bonne chose. Elle sait toujours trouver le mot de la fin. De ce moment, l'ex-commissaire de police s'efforça d'oublier l'existence de M. Drummel en ne regardant plus que Mme Drummel. Et plus il la regardait, plus elle lui plaisait. Il admira sans réserve ses cheveux d'un blond argenté, la douceur de sa voix flûtée, l'aisance de son maintien, la vivacité de ses manières, ses yeux de teinte indécise, couleur du temps. Il admira surtout les grâces mignonnes de son sourire. N'étant jamais allé à Francfort sur le Main, ce sourire lui était nouveau. Il ignorait qu'on l'y rencontre souvent et qu'il est le frère des bons vins du Rhin. Ce qui le chagrinait, c'était le respect que Mme Drummel semblait avoir témoigné à son mari, les attentions qu'elle avait pour lui, l'air soumis dont elle l'écoutait, l'empressement avec lequel elle approuvait ses sentences, comme les paroles d'un oracle. Il ressentit un excès d'indignation en pensant que ce butor avait su gagner un cœur de cette ravissante créature à qui il disait en lui-même avec colère « Mais ne vengeras-tu donc pas les médecins ?» En descendant de l'omnibus, M. Drummel s'embarrassa les jambes dans son parapluie. Il trébucha sur le marchepied et faillit se laisser choir tout son long sur le pavé, ce qui fit passer dans l'âme et dans les yeux de M. Taconnet un éclair d'espérance. Mais Mme Drummel était là, car elle était toujours là, toujours attentive et toujours souriante. Elle retint par le coude son mari, qui ne tomba point. Sa tendresse vigilante s'alarmait facilement. « Oh, tu m'as fait peur !» lui dit-elle. « Oh, ce n'est rien, ma chatte !» répondit-il. « Monsieur Drummel n'est jamais tombé !» Cela dit, il lui mit sur les bras deux gros sacs de nuit, bien bondés et fort lourds, se bornant quant à lui à porter sa poche de voyage, son parapluie et sa personne. Ben, « tout supporté et tout porté, » pensa M. Taconnet. « Voilà le sort de cette chatte. » Après avoir commandé son déjeuner, M. Drummel voulut donner un coup d'œil à l'exposition permanente de peinture qui est ouverte au rez-de-chaussée de l'hôtel où il venait de descendre. Il a du goût pour les beaux-arts, la prétention de s'y connaître et d'en juger. Il décide lui-même ses moments perdus. Joint au talent, l'application d'esprit produit des miracles. Le talent manque à M. Drummel, mais il est fort appliqué. Si jamais vous passez à Görlitz, demandez à voir ses tableaux. Il y met de la synthèse, comme il en a mis dans son mariage. Il se plaît à rassembler sur la même toile toutes les roches connues, le calcaire, le granit, la molasse, et au moins 10 essences d'arbres. Tout cela est rendu très exactement. Il n'y manque qu'une chose, le je ne sais quoi, qui fait qu'un tableau est un tableau. Mais il ne lui importe guère, il estime que l'exactitude est une vertu qui tient lieu de toutes les autres. Il en trouve peu à peu, peu dans les peintures des jeunes exposants de Barbizon. Il faut convenir que ce jour-là, il n'y avait dans le nombre aucun chef-d'œuvre. Hélas, les Dioscures de ce glorieux village sont morts. Rousseau et Millet ne peindront plus. M. Drummel trouva tout détestable. Il se dirigea vers la porte en se couvrant les yeux pour ne plus voir les honteux peinturlurages qui offensaient la délicatesse de son goût. Comme il allait sortir, Madame Drummel le rappela. Elle venait de découvrir à l'un des bouts de la simèse une toute petite toile qu'elle trouvait charmante. Ce tableautin, qui représentait une cavalcade dans une chênaie, jouait une finesse rare de dessin, un ragoût de couleurs tout à fait appétissant. Le jeune homme qui l'avait peint, et que vous connaissez tous, s'appelle Henri Lestocq. Ce joli garçon a le diable au corps. On peut lui promettre un superbe avenir si ses premiers succès ne le grisent pas. Puisse-t-il se défier de l'habileté prodigieuse de sa main et ne pas sacrifier le sérieux de l'art au croustillant qui est le dieu du jour? La peinture qu'on préfère depuis quelques années est celle qui donne envie d'en manger. On peut douter pourtant qu'elle soit faite pour cela. Malgré son parti pris, M. Drummel se sentait attiré par le croustillant du tableautin. Il y promena longtemps ses yeux et son nez, et il s'informa du prix. Son admiration redoubla quand on lui dit que le peintre demandait 2 000 francs de cette petite pochade qu'on aurait logée dans une tabatière. Tous les philosophes ont leurs faiblesses. Et la sienne était d'éprouver une admiration naturelle pour les choses qui coûtent cher et un vif désir de les avoir à bon marché. Mais quand on lui assura que M. Henri Lestocq n'avait qu'un prix et ne faisait jamais de rabais, il déclara que M. Henri Lestocq était un extravagant et que ses prétentions étaient impertinentes. Il s'en alla déjeuner. Le couvert avait été mis sous un hangar qui s'ouvre sur une allée des jardins. M. Drummel mangea de grand appétit. Il dévora tout en se plaignant que rien ne fut mangeable. Il prétendit que les œufs n'étaient pas frais. La poule venait de les pondre. Il prétendit aussi que sa côtelette de mouton était coriace, que le jambonneau ne valait pas le plus grossier jambon de la Westphalie. Il fit la grimace en buvant son café, qui était exquis. Après avoir tout passé par l'étamine, il voulut, avant de retenir une chambre, savoir ce que lui coûtait son déjeuner. Oh, il se récria sur l'addition, discuta, marchanda, liarda, si bien que l'aubergiste finit par se fâcher, et de mémoire d'homme, Madame Picot ne s'est jamais fâchée qu'à bon escient. Il y a des voyageurs qui aiment à voyager à bon compte et qui s'accommodent de tout. Et il y en a d'autres qui sont fort exigeants et qui paient volontiers en conséquence. Il y en a d'autres, enfin, qui exigent tout et qui voudraient ne rien payer. C'était le cas de M. Dormeul. L'ex-commissaire de police avait assisté de loin à cette petite scène. Il dit tout bas à l'aubergiste, qui se retirait en colère, mais il vous demandera ce soir pour son dîner un ange rôti et il le paiera 6 sous comme une alouette. Une demi-heure plus tard, M. Dromel traversait le bas préau, se dirigeant d'un pas délibéré vers les gorges et les rochers de la Solle. Avant de se mettre en campagne, il n'avait consulté personne. Il ne consultait jamais que lui-même. Son intention n'était pas de visiter des sites célèbres. Il faisait peu de cas des endroits où tout le monde va, par la même raison qu'en matière de politique, d'histoire et de sociologie, il méprisait tous les lieux communs. C'était sa bête noire. Il avait daigné acheter à Paris l'excellent guide Johan. Il y avait lu que les 8 ou 10 chaînes qui traversent la forêt de Fontainebleau semblent être des lambeaux d'une ancienne assise de sable et de grès, détruites en partie par les cataclysmes, que les vallées qui les séparent ont été formées par l'érosion violente de courants sous-marins, que les immenses tables de grès, privées d'appui, se sont affaissées et que leurs débris ont produit ces entassements sauvages et pittoresques qui offrent un caractère si particulier. Cette explication n'avait pas eu le bonheur d'agréer à M. Dromel. Il avait peu de goût pour les courants sous-marins. Il ne croyait qu'aux actions lentes et il désapprouvait tous les cataclysmes. Esprit méthodique, il était fortement convaincu que, comme lui, la nature procédait toujours avec méthode, qu'elle avait, comme M. Dromel, le génie novateur, sans y mêler aucune passion révolutionnaire, et que si elle avait siégé pendant 3 ans au Reichstag, elle aurait pris place dans le voisinage des socialistes sans jamais frayer avec eux. Il se flattait de rapporter de son excursion une petite théorie toute neuve, un réquisitoire en règle contre les idées reçues. Il se promettait d'en faire le sujet d'un article qu'il expédierait dès le lendemain à la rédaction de son journal, en l'assaisonnant de quelques épigrammes contre l'Asinus ridiculissimus qui avait la sottise de croire au cataclysme. Ce qu'il cherchait à cette heure, ce n'était pas le nid d'amour, ni le gros fouteau, ni d'admirables cépés de charme, ni de beaux points de vue, ni le plaisir des yeux. C'était des preuves sans réplique, des arguments irréfutables. Et tout en marchant, il pensait à l'Asinus, qui peut-être en ce moment pensait à lui, touchant sympathie des belles âmes. Il serait mort de confusion s'il avait demandé sa route à qui que ce fût. Et même il n'accordait que peu d'attention aux marques rouges et aux marques bleues que des mains prévoyantes ont imprimées sur le tronc des chênes ou sur la paroi des rochers dans le dessein louable d'orienter le piéton. Il avait pris avec lui sa boussole et sa carte, encore ne les consultait-il qu'à de rares intervalles. Son idée était la plus sûre des boussoles. Devant lui marchait son grand nez héroïque, aux narines frémissantes, qui savait toujours son chemin, guide infaillible, sondant l'espace et flairant l'inconnu. Madame Dromel suivait. Quoi qu'on fût au 30 septembre, il faisait chaud. Le ciel n'avait pas un nuage et la pauvre femme était sans défense contre le soleil qui était ardent. Par l'ordre de son maître, elle avait laissé à l'hôtel son parasol de soie caroubier. Et d'ailleurs, à quoi lui aurait-il servi? Elle avait les deux bras empêchés, l'un par un grand plaid à carreaux plié en 4 que M. de Rummel se proposait de mettre sous lui quand il s'assiérait dans l'herbe, et sur lui quand le serin tomberait, et l'autre par le panier aux provisions, destiné à parer à quelqu'une de ces crises violentes de l'estomac auxquelles le sociologue sont sujets. Le grand plat était gênant, le panier était terriblement lourd, et le sentier, qui serpentait parmi des blocs épais, était abrupt. Madame Drommel souriait. On sait qu'elle avait peine quelquefois à se faire obéir de sa jambe droite. Il lui prenait des lassitudes. Elle doutait de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais elle rassemblait ses forces, elle ramassait son courage, et elle souriait. Le soleil l'incommodait beaucoup. Elle pensait, en soupirant, à son parasol. Ses pieds mignons enfonçaient tour à tour dans un sable poudreux ou glissaient sur de perfides aiguilles de pin. Elle se disait que celui qui inventait les voitures à 8 ressorts était un homme de génie. Elle avait toujours eu peur des serpents. Et il lui semblait à chaque instant qu'elle allait marcher sur une vipère qui se redresserait en sifflant. Mais ne laissait pas de sourire. Par intervalle, s'arrêtant pour reprendre haleine, elle regardait derrière elle et croyait apercevoir dans l'épaisseur d'une futaie ou dans le vague désert, je ne sais quoi, une vision, quelques scènes de son passé, un visage dont elle avait gardé un obligeant souvenir. Puis, se retournant, elle ne voyait plus qu'un gros homme court, dont l'énorme tête et la puissante nuque se détachaient insolemment sur le ciel bleu. Ce gros homme court était le présent et l'avenir. Il possédait à la vérité la synthèse, mais il ne songeait pas à demander à sa chatte si elle était lasse. Et nonobstant, elle souriait. Elle se disait parfois, « Si pourtant, oh, s'il arrivait par miracle, le miracle ne se faisait pas. » Et elle souriait encore, elle souriait toujours. Cette vaillante petite femme prenait tout en bonne part, ne regardait que l'aimable côté des choses, brave dans les épreuves, croyant fermement aux occasions, convaincue par son expérience qu'il y a dans ce monde plus d'épines que de roses, mais faisant bon visage aux épines et cueillant la rose sans se piquer les doigts. Ce sourire de belle humeur qu'une mère accorte et facile lui avait appris dès son bas âge, à la petite pointe du jour, ne l'avait jamais quitté. Il avait résisté à toutes les inclémences du sort. Il avait traversé avec elle les misères d'une ingrate jeunesse. Il l'avait suivie dans tous les défilés, dans tous les fourrés de la vie, dans les hasards de débuts contestés, comme dans l'ivresse des premiers succès. Il lui avait toujours tenu compagnie, à la ville, sur les planches, au foyer de la danse, même dans la trappe où elle s'était cassé la jambe, et ce qui est le plus digne de remarque, jusque dans les plaisirs douteux d'un mariage synthétique. Ce sourire est destiné à ne mourir qu'avec elle, et quand on la clouera dans son cercueil, ce bel oiseau sera encore là, doucement posé sur les lèvres pâlies, et chantant à la Camarde sa dernière chanson. Comme il venait de déboucher dans la vallée de la Solle, M. de Rummel se mit à allonger le pas, et sa femme lui dit, tout essoufflé, « Oh, tu ne me ménages pas assez, tu ne te ménages pas, je crains que tu ne te fatigues. » Elle s'approcha de lui. Il avança vers elle son vaste front ruisselant, dont elle étancha la sueur avec son mouchoir de dentelle, se flattant du vain espoir qu'il allait lui dire « Oh oui, imbécile que je suis, je te fais trotter, tu n'en peux plus, reposons-nous. » Il lui montra du doigt ses jarrets et ses pieds d'éléphant et lui dit « Mais c'est de l'acier !» Il ajouta « N'est-il pas plaisant que tu aies épousé depuis 2 ans M. de Rummel et que tu ne saches pas encore que M. de Rummel n'est jamais là ?» À ces mots, il se remit en route. Cependant, après 3 heures d'enjambée et à travers beaucoup de circuits, ils atteignirent le mont Chauvet, où M. Dromel résolut de faire une halte, non qu'il fût là, mais son estomac commençait à parler, ou plutôt à crier. Il se garda bien de pousser jusqu'à la fontaine, qui commande un beau point de vue. On lui avait conseillé d'y aller, et il n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il avisa, au pied d'un hêtre solitaire, une pierre plate, qui formait un siège commode. Laissant à sa femme le soin de s'en procurer un autre, il la déchargea de son plaid qu'il étendit sur la pierre. Il s'y installa, le hêtre lui servant de dossier. Madame Dormel posa à terre son cabas, en tira un poulet froid que le grand homme expédia lestement. Puis il avala 3 verres de bière en déclarant qu'elle était exécrable. Après cela, il ouvrit son calepin, se mit à crayonner des notes pour le grand article qu'il ruminait dans sa tête et dans lequel il comptait tailler des croupières au Guy Johann et à l'Asinus. Madame Dromel s'était assise, tant bien que mal, sur un tronc d'arbre renversé. Elle n'avait pas de dossier, elle s'en passait. Elle croquait des noisettes qu'elle cassait entre 2 cailloux, et elle admirait le paysage. Par instant, elle grattait la bruyère défleurie avec le bout de son pied, et comme précédemment, elle se disait « Oh, si pourtant, oui, s'il arrivait par miracle en creusant la terre du pied, il en sortit. » Quoi donc ? Oh, elle ne le disait pas. Son sourire achevait sa phrase. Hélas, le beau petit pied avait beau gratter, la terre était sourde à son désir. Il n'en sortait rien, ni personne. En ce moment, M. Dromel était bien loin de se souvenir qu'elle exista. Il continuait de prendre ses notes et, selon sa coutume en écrivant, il pinçait entre son pouce et son index la coquille de son oreille gauche. Il la chiffonnait, la tiraillait dans tous sens, l'allongeait indéfiniment. C'était sa manière de s'inspirer. Madame Dormel regardait par intervalle cette oreille énorme qui était du plus beau rouge, et les visions de chauve-souris passaient devant ses yeux. Après cela, elle contemplait le plaid à carreaux, le panier qu'elle avait porté dont elle sentait encore le poids à son bras, puis le grand vide du ciel où elle croyait voir courir une belle calèche bien moelleuse dans laquelle il y avait quelqu'un qui la regardait. L'instant d'après, son petit pied recommençait à gratter la terre. Le vœu qu'elle venait de former ressemblait à une résolution. Et comme on peut croire, M. Dromel ne se doutait de rien. Il était tellement absorbé par son travail qu'il ne s'avisa pas de la fuite des heures. Le soleil allait se coucher quand il quitta sa grosse pierre et donna le signal du départ. Soit que sa clairvoyance fût intermittente, soit par l'effet de quelque distraction, il ne sut pas retrouver son chemin et finit par s'égarer complètement. Madame Dormel s'en aperçut, mais il coupa court à ses représentations en l'assurant qu'il possédait au suprême degré la bosse des localités. Le malheur fut que, en descendant un sentier rocailleux, elle fit une glissade et tomba sans se faire grand mal à la vérité. Il lui reprocha vivement sa maladresse, la rabourra, se fâcha avant de l'aider à se relever. Elle fut bientôt sur pied et s'excusa de son mieux. Étourdie par sa chute, craignant d'en faire une autre, elle ralentit le pas. Oh, il se fâcha de plus belle. Ce qui mit le comble à sa colère, c'est que le sentier qu'il suivait les conduisit à un carrefour où aboutissaient 5 chemins de traverse. Lequel prendre ? M. Dromel était fort embarrassé et furieux de l'être. Il ne faisait plus assez jour pour qu'on pût déchiffrer les indications des poteaux. Cet irascible sociologue s'en prit à sa femme, qui, pendant qu'il parlait et délibérait, s'assit sur le revers d'un talus pour donner un peu de relâche à ses pieds meurtris. « Mulier magnum impedimentum !» s'écria M. Dromel. La femme, un grand embarras empêchement. Et la priant de l'attendre, il enfila au hasard l'une des cinq traverses dans l'espérance qu'elle aboutissait à une grande route où il trouverait à qui parler. Madame Dromel n'aimait pas les vipères et n'aimait pas non plus la solitude. Elle promena ses yeux autour d'elle et ressentit quelque émotion. Elle voyait le crépuscule s'épaissir rapidement et cette grande forêt dont la nuit s'emparait par degrés lui faisait peur. Elle se mit à chanter, ce qui est un signe grave. Elle ne se doutait pas qu'on l'écoutait. Elle s'interrompit soudain. Elle avait entendu le bruit d'un pas. Le cœur lui battit très fort, le sang lui monta aux joues. « Johannes, est-ce toi ? » cria-t-elle. Une voix claire et fraîche lui répondit. « Non, je ne suis pas Johannes, et j'en ai bien du regret, madame, puisque c'est lui que vous appelez. » Son émotion se dissipa subitement et fit place à la surprise. La voix qui venait de lui parler n'avait rien d'inquiétant. Ce n'était pas celle d'un malandrin. Elle se rassura tout à fait quand elle vit apparaître un joli garçon à la fine moustache blonde qui portait sur ses épaules tout l'attirail d'un peintre. C'en était un, en effet, car il s'appelait Henri Lestocq et il revenait de faire une étude dans la gorge du Houx. Si son talent ne fait pas banqueroute, peut-être l'appellera-t-on un jour le grand Lestocq ou Fortuny II. Pour le moment, on le traite de petit, non qu'il soit court sur jambes, mais parce qu'il est mince, svelte, fluet, ce qui n'empêche pas d'avoir une santé de fer. Jusqu'à 30 ans au moins, il aura l'air jeunet. Il y a du reste deux petits Lestocq, celui que connaissent les hommes et celui que connaissent les femmes. Avec les hommes, il est froid, réservé, compassé, narquois, sèchement ironique, gai par excès, mais toujours pince sans rire. Beaucoup de gens le prennent pour un Anglais. Auprès des femmes, il est tout autre. Il a des naïvetés volontaires, des candeurs calculées, jointes à l'effronterie d'un page, et il se permet de grandes libertés sans qu'elles se fâchent. Se fâche-t-on contre un enfant ? L'une d'elles, qui le connaît bien, disait de lui « C'est chérubin qui en est à sa seconde comtesse et à sa seconde manière. »« Oh, ajoutons-y deux ou trois Suzanne, » répondit un autre, qui le connaît mieux encore. Il s'était approché, la tête haute, l'œil allumé. Il paraissait ravi de la trouvaille qu'il venait de faire. Quand il fut à trois pas de Mademoiselle Dromel, il ôta respectueusement son chapeau, resta quelque temps à la regarder, la mangeant, ou pour mieux dire, la buvant des yeux. Il avait l'air très surpris et charmé d'un gourmet savourant un grand cru qu'il a découvert dans un cabaret du village. Elle le regardait aussi, et elle se souvint du rêve qu'elle avait caressé sur la cime du Mont Chauvet. Elle ne put s'empêcher de se dire que son joli pied n'avait pas travaillé en vain, que la terre s'était émue et qu'il en était sorti quelque chose. Était-ce précisément ce qu'elle cherchait ? Oh, certes non, mais ce qu'elle venait de trouver ne lui déplaisait pas. Elle s'était toujours résignée à toutes les volontés du ciel. Elle lui disait dans ses prières, « Oh, si ce n'est lui, que ce soit un autre, pourvu que ce soit quelqu'un !» Elle se rappela qu'elle devait une réponse au jeune inconnu. « Oh, vous voyez, monsieur, lui dit-elle, une femme bien malheureuse, voici 5 chemins, et je ne sais pas lequel conduit à Barbizon. »« Oh, mais j'y vais de ce pas, répondit-il, convenez que c'est le ciel qui m'envoie !» et lui offrit son bras, qu'elle n'accepta point. « Ma situation est plus compliquée que vous ne pensez, » reprit-elle. « Mon mari est allé à la découverte et je l'attends. » En apprenant qu'il y avait dans cette affaire un mari et que ce mari était proche, Henri Lescaut éprouva la plus vive contrariété. Il parut consterné et son dépit se peignit si naïvement sur sa figure que Madame Drummel, qui avait toujours bon cœur et beaucoup de pitié pour les chagrins qu'elle causait, trouva son cas intéressant. « Mais me permettez-vous au moins de l'attendre avec vous ?» fit-il après un silence. Elle lui répondit par un signe de tête qui voulait dire « Il m'a fait faire tout d'une haleine 4 grands lieues au moins sans s'informer si j'étais lasse. Et notez que je portais à mon bras le panier aux provisions, j'en ai encore la marque. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est assis sur le plaid, et un siècle durant, il a griffonné je ne sais quoi sans trouver à moi me dire. J'avais pas d'autre distraction que de contempler son oreille gauche, qui ne m'avait jamais paru si grande. Le fait est qu'elle est énorme. Que tous ses péchés lui soient pardonnés. Je suis une âme sans malice. Mais vous arrivez dans un bon jour, dans un moment favorable. Tâchez d'en profiter. L'occasion a des ailes et s'envole. » Quoique le petit Lestock n'eût pas compris la moitié de ce que voulait dire le mouvement de tête de Madame Drummel, il s'assit bien vite à ses côtés, sur le talus, un peu plus bas qu'elle, et bientôt il se trouva presque à ses genoux. La conversation s'engagea. Ils firent connaissance avec une promptitude qui s'explique par l'imprévu de leur rencontre, par la fatalité des sympathies, par la nuit qui tombait et par le lieu où il se trouvait. Les choses vont très vite dans les bois. Sous leur voûte mystérieuse, la pensée acquiert des rapidités qui l'étonnent elle-même. Une forêt n'est jamais un témoin incommode, et quelquefois, elle a la figure d'un complice. Après 2 minutes d'entretien, Madame Drummel avait deviné que ce joli blondin était l'auteur du petit tableau qu'elle avait admiré, et elle lui dit le cas infini qu'elle faisait de son talent. À son tour, il lui adressa le compliment qu'il regardait comme le plus flatteur de tous. Il lui signifia qu'il l'avait prise pour une Parisienne, qu'il en avait jugé ainsi à ses manières, à sa tournure, à son chapeau, à sa jolie robe jaune paille qui sortait des mains de la meilleure faiseuse. Elle lui apprit que son éducation avait été très soignée. On lui avait enseigné dès son enfance qu'une berlinoise doit se faire habiller à Francfort et qu'une francfortoise à Paris. Il sut bientôt qu'elle avait été danseuse et que, par une dispensation singulière du sort, elle était la femme d'un sociologue. Ce genre d'animal lui était absolument inconnu, mais il avait une imagination vive. Il devina tout de suite de quoi il s'agissait, et bien que Madame Drummel s'exprimât en termes fort discrets, le personnage lui apparut et il le refit tout entier de la tête aux pieds. Bref, au bout d'un quart d'heure, il savait tout, sans qu'il eût rien dit, mais ils étaient l'un et l'autre fort intelligents et disposés à s'entendre comme larrons en foire. Cependant, M. Drummel ne revenait pas. Cela devenait inquiétant. Madame Drummel ne songeait plus à s'inquiéter. Elle pensait à toute autre chose. « Madame, lui dit le jeune homme en attachant sur elle un regard à la fois très candide et très audacieux, l'an dernier, j'ai trouvé dans la forêt un bijou de prix. J'ai fait mettre à ce sujet une annonce dans les journaux. Personne n'a réclamé le bijou et il m'est resté. Et cette fois, je viens de trouver une femme et quelle femme? Personne ne la réclame, oh, j'ai bien envie de la garder. » Il mentait, car il aimait apprendre, mais il ne gardait jamais rien. Sa hardiesse la choqua point. « Un instant, monsieur, répliqua-t-elle en riant. Commencez par me mettre dans les journaux un article des objets perdus et nous verrons après. » En ce moment, une voix aiguë qui partait du bout de l'un des chemins de traverse cria « Ada, Ada !»« Me voici, j'y vais, » répondit-elle en se levant. Le petit Lestock se leva aussi. Il fit un geste de désespoir, murmura. « C'est lui, oh, je reconnais sa voix. Dieu me fasse grâce, voici où mon aventure se gâte. » Il salua, fit quelques pas, puis se retournant, l'audacieux jeune homme dit tout bas, « Est-il gênant ?» Elle se mit encore à rire et dit, « Vous en jugerez ce soir. » Elle ajouta d'un ton d'autorité, de commandement, « Mais tâchez de lui plaire. »« Oh, lui plaira, » fit-il. Et il disparut dans un sentier. Ada rejoignit aussitôt son mari, qui lui cria d'un ton goguenard, ben « Te voilà tout ému, gageons que tu as eu peur. Tête de femme ou de linotte, que pouvait-il donc t'arriver? Tu crois au loup ?» Elle aurait pu lui répondre qu'elle venait d'en rencontrer un et qu'il en est d'aimable. Elle se contenta de lui arranger sa cravate qui s'était dénouée. Cela fait, elle lui dit, « Te voilà superbe !» Puis elle lui tendit sa blanche main pour qu'il la baisât. Il s'acquitta de cette formalité en rechignant et avec la grâce d'un ours qu'il était. « Dépêchons-nous » dit-il d'un ton d'humeur, « et t'avises plus de tomber. La route est ici, près, mais il faut une heure encore pour arriver au gîte et je meurs de faim. » Elle fit un effort suprême pour se remettre vaillamment en chemin. L'entorse qu'elle s'était faite dans sa chute et qu'elle avait oubliée en causant avec un jeune inconnu se rappelait douloureusement à son souvenir. À la vérité, cette entorse était fort légère, mais elle n'avait plus le pied sûr. Elle butait à chaque instant. Quand elle atteignit l'extrémité de la traverse, à peine est-elle fait 10 pas sur le chemin de Fleury, elle se sentit au bout de ses forces et fut prise d'une défaillance qui lui attira une algarade. La fortune qui s'intéresse aux jolies femmes eut pitié d'elle et lui porta secours. Une calèche vint à passer. Un noble étranger mit sa tête à la portière et agitant une main toute chargée de bagues, il s'écria avec un accent très prononcé « Je viens de Fontainebleau, je retourne à Barbizon, j'ai 2 places à offrir, et je serais charmé si on les accepterait. » À ces mots, il se lança à terre, fit monter M. et Mme Drummel et coupa court à leur remerciement en disant « Quand je vois une femme qu'elle est là, mon cœur y s'émeut. » Si le noble étranger ne parlait pas très purement le français, il avait en revanche grand air, de grandes manières, une belle tête, un visage au teint mat, encadré de noirs sourcils et d'une barbe artistement peignée, taillée. Ada, qui avait le goût délicat, trouvait à redire à l'abondance excessive de ses bagues et à la profusion des odeurs qu'exhalait son mouchoir, ses vêtements, ses cheveux. Mais, mollement étendue dans la calèche, elle se sentait revenir de mort à vie, et elle avait trop d'obligations à cet homme providentiel pour ne pas tout lui pardonner. Quant à M. Drummel, il était disposé à voir dans la politesse qu'un Italien venait de faire un penseur allemand, un de ces hommages instinctifs et tout naturels que les races subalternes rendent aux races supérieures. On aurait pu croire, et peut-être croyait-il lui-même, de bonne foi, que la calèche était à lui, et que l'Italien était son obligé. Il le traitait de haut, d'un air de condescendance. Cependant, quand il eut appris par les hasards de la conversation que l'homme aux bagues était un grand personnage sicilien, et portait le beau titre de prince de Malacera, il changea subitement d'attitude sa morgue dégela, son cœur s'attendrit et s'exalta. Il n'avait pas seulement la faiblesse d'admirer les choses qui coûtent cher, il avait un respect natif pour les grandeurs. L'amitié d'un prince lui semblait un bienfait des dieux. Il déploya toutes les grâces de son esprit pour démontrer au noble étranger que, quoi qu'on puisse dire les mauvaises langues, M. Drummond ne s'était pas égaré dans la forêt, attendu qu'il ne s'égarait jamais. Il lui expliqua point par point qu'en définitive, le chemin qu'il avait suivi était le bon, et que, s'il avait éprouvé un moment d'embarras, cela tenait à ce que la carte dont il s'était muni était celle de l'état-major français. Il profita de cette occasion pour déclarer que les Français n'ont jamais su la géographie et que leurs cartes sont de qualité inférieure. Le noble étranger lui donna raison, abonda dans son sens. Il en fut charmé, et quand la calèche s'arrêta devant la porte de l'auberge de Barbizon, il ressentait déjà une vive sympathie pour son nouvel ami, le prince de Malasserre.